carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La Biennale de sculpture de Hyères, dont c'est la deuxième édition en 2009, a été créée par Nicolas Dupont-Aignan, député maire de Hyères dans l'Essonne, et Lydia Arambourg, historienne de l'art. Cette année, 73 sculpteurs ont répondu à l'appel de Lydia Arambourg, commissaire de la Biennale. Les visiteurs sont invités à se promener dans le parc de la propriété Caillebotte, ainsi que dans le bâtiment de la ferme Ornée, qui est devenu depuis sa restauration un centre d'art et d'exposition inauguré en 2008. Dans cette émission, vous entendrez Lydia Arambourg, puis le sculpteur Antoine Poncet, devant l'une de ses œuvres exposées à Hyères. Lydia Arambourg, quel retour avez-vous de la précédente biennale ?
Ça a été un immense succès parce que le domaine s'y prête, le parc est superbe. C'est un écrin naturel et magnifiquement offert qui attend vraiment la sculpture. Et à chaque installation, là c'est la deuxième, et j'ai eu cette même émotion de voir arriver les sculptures qui... Alors bien sûr, je travaille avant sur le terrain, donc il y a un côté très virtuel. Après, je travaille sur plan... Et pour positionner un peu chacun, et il y a une vraie mise en scène, mais c'est une mise en scène qui est portée aussi à la fois par... c'est difficile à...
Par le lieu et par les œuvres.
Voilà, les œuvres s'imposent et en même temps, le parc est là aussi qui s'impose. Et le petit miracle, c'est que ça va fonctionner. Et alors, quand je commence à positionner une sculpture, 73, deux sculptures,
ça paraît,
très vite je sens qu'il y a, une circulation qui va se faire.
Et puis le côté très, très agréable là, quand on arrive.
Oui, parce que c'est en relief, il y a une déclinaison.
Il y a une véritable déclinaison.
Et là, ce sont les écueils, mais les difficultés, parce qu'on ne peut pas toujours utiliser ces endroits pour mettre des sculptures, justement, du fait que ça ne soit pas plane, que ce soit pas... Il y a des problèmes aussi d'implantation.
On les voit autrement, du coup.
Oui, bien évidemment.
C'est ça qui est surprenant et bien agréable aussi.
Alors, il faut que ça respire, et ça respire, mais c'est vrai qu'on aurait pu encore en mettre davantage. Alors après, c'est des questions de coût, parce que la sculpture, c'est compliqué pour des questions tout simplement de logistique et des questions bassement matérielles. Il faut le transport, il faut beaucoup d'aide, de présence humaine qui vous aide. Il faut travailler le terrain parce qu'on ne met pas une sculpture comme ça à même le sol. Donc, il y a une question aussi de sécurité, mais d'isolement aussi. Donc, il faut préparer les espaces. Les jardiniers sont très efficaces et sont très attentifs à justement fois garder cette beauté naturelle du parc, mais qui est quand même... domestiqué, je dirais, et puis d'accueillir ces sculptures qui trouvent leur place.
On allait ajouter naturellement.
Oui, absolument.
Lydia Arambourg, votre but, c'est de rendre visible la sculpture en France, non pas qu'elle ne le soit pas, mais elle n'a pas elle ne rencontre pas l'écho des médias et du public comme les autres arts. Là, votre pari semble gagné quand même, puisque deux fois plus d'œuvres montrées. Ça reste un événement fort rare en France. Il y a peu d'expositions comme ça de plusieurs sculpteurs qui montrent plusieurs générations. Pour votre première biennale, vous aviez voulu, il y a 2 ans, montrer la sculpture de couturier jusqu'à une...
C'était vraiment le doyen de la sculpture. Voilà. Alors, je trouvais dommage. Et puis, enfin, c'était même inenvisageable de ne pas mettre couturier au cœur de ses confrères. Et effectivement, ça faisait presque 4 générations de sculpteurs. C'était fabuleux. Depuis, Couturier est décédé, mais il avait 103 ans. Alors, c'était fabuleux parce que c'était la mémoire vraiment de la sculpture, parce que c'était en droite ligne l'héritage depuis Mayol. Enfin.
Comment avez-vous opéré votre choix ?
Mais mon choix s'est fait toujours avec mes choix, oui. En fait, ils me viennent, naturellement là aussi, parce que La sculpture, c'est l'histoire de la sculpture, le langage de la sculpture s'impose naturellement. Donc, il y a obligatoirement des noms qui viennent, mais qui sont des artistes.
Qu'est-ce que c'est un sculpteur pour vous ?
Un sculpteur,
aujourd'hui,
c'est un artiste qui a un face-à-face avec la matière. Et de cette matière, il en extrait un langage. C'est son identité, c'est une vision de son monde qui passe par la matière. Donc il y a des outils, il y a la main qui est là, qui est au service d'une pensée, et c'est transcrire, c'est transposer, c'est même pas ça, c'est vraiment un langage qui est complètement inhérent, et c'est la matière qui dicte finalement, qui dicte un langage, qui dicte une écriture. Il est évident que quand on travaille le marbre, quand on travaille le bois, quand on travaille le métal, ça fait naître des formes qui sont inhérentes à ce matériau spécifique.
Donc là, sont présentées justement des sculptures. On a des sculptures en bois, en plâtre.
Tous les matériaux sont représentés, en sachant aussi
en bronze,
que
en métal.
Notre époque contemporaine propose aussi aux artistes des matériaux nouveaux, comme les résines, le polystyrène, et que les sculpteurs sont amenés à interroger ces matières. Et là aussi, il y a des formes qui naissent de ces matières qui sont travaillées aussi avec les outils qui sont créés même parfois par l'artiste lui-même. Il adapte ses outils aux matériaux qu'il va affronter.
Qu'est-ce qui vous a surprise dans cette moisson 2009 ?
Moi, je suis toujours émerveillée et éblouie de voir cette diversité d'univers. Donc, je connais tous ces sculpteurs. Alors, la surprise, elle est plus là, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'il y a certains jeunes sculpteurs qui sont présents, mais qui travaillent des matériaux comme le plâtre ou qui travaillent la cire qui est ensuite fondue, la pierre, le granit, enfin. Donc, non, les surprises, moi, c'est l'émerveillement, je dirais. C'est pas une surprise comme ça, une découverte. Les découvertes, elles se font dans l'année, elles se font dans le temps, au quotidien, quand je vais visiter des ateliers, quand je rencontre des sculpteurs qui me contactent ou que je découvre au hasard, pas au hasard, mais que je découvre dans une exposition, dans un salon, je me dis tiens, voilà, ah, je ne connais pas. Que fait-il ? Que fait-elle ? J'ai envie d'aller voir plus loin. Donc, il y a quelque chose qui m'arrête, il y a une accroche, il y a vraiment quelque chose, il y a un déclenchement parce que l'œuvre m'a parlé, il faut que j'aille voir plus loin.
Mais vous leur avez demandé à chacun une œuvre ou vous avez choisi avec eux ?
Alors j'ai choisi généralement, oui, je choisis avec le sculpteur.
D'abord.
C'est un vrai dialogue et ça c'est bien sûr le...
Parce qu'il n'y a pas de thème à la Biennale.
Il n'y a pas de thème.
C'est la grande liberté.
Sculpture. C'est la sculpture, encore une fois. La sculpture aujourd'hui, on mélange un peu tout parce qu'on est quand même dans une époque où il y a des techniques, je pense par exemple à la vidéo et puis surtout à l'ordinateur qui permet maintenant de dessiner, de faire des sculptures en trois dimensions qui sont... Bon, là on est dans un autre monde, on est dans un autre univers. La sculpture, c'est autre chose. C'est vraiment un héritage qui remonte très loin, qui remonte aux Égyptiens et même bien avant, je veux dire, à partir du moment où l'homme a envie justement de créer quelque chose à partir d'un matériau. Et donc, la sculpture est éminemment vivante et c'est ce que je veux montrer avec cette biennale, c'est qu'il y a des sculpteurs, la sculpture est très exigeante, c'est une activité solitaire. C'est une activité qui est très, très intériorisée aussi et qui est très exigeante. Et je pense que ça explique aussi peut-être cette fratrie. Les sculpteurs constituent une véritable famille parce qu'ils sont confrontés à des réalités, à tout simplement un quotidien qu'ils vivent. Bien évidemment que ça les rapproche parce qu'il y a des difficultés de tous ordres, des difficultés d'espace, des difficultés de matériaux qu'il faut acheminer jusqu'à l'atelier, des difficultés de transport. Donc il y a tout ce côté qui semble un peu banal et qui existe moins chez un, pour un peintre, mais qui, avec le sculpteur, prend tout de suite une véritable... Il y a des contraintes. Ces contraintes, elles disparaissent parce que le sculpteur ne pense qu'à une chose, il est dans sa création. Et la sculpture, c'est pas seulement non plus, je vais dire un mot qui ne correspond pas, mais c'est pour essayer de faire comprendre, un objet. C'est pas un objet. La sculpture, c'est pas un objet. C'est pas une chose qu'on prend comme ça et qu'on pose. Donc, il y a vraiment... Il y a cette relation à l'espace, il y a cette relation à la matière, il y a ce face-à-face extrêmement dur et qui est dans le temps. C'est dans le temps. Le sculpteur, la sculpture, elle ne se fait pas... ça s'inscrit aussi dans une durée de l'œuvre. C'est-à-dire
Gérard Lanvin nous disait tout à l'heure que sur certaines sculptures, il revenait dessus.
Voilà. Exactement. Alors, il y a des sculpteurs, effectivement, vous me direz, il y a aussi des peintres qui reviennent sur leur tableau, qui le laissent mûrir, enfin.
Gérard Lanvin.
Ce n'est pas le cas de toutes les sculptures.
Non, ce n'est
pas. Loin de là. Mais ça a pu arriver, oui.
Aujourd'hui, le public a un peu tendance à mélanger parce que il n'est peut-être pas non plus responsable de sa vision, mais on nomme une sculpture ce qui n'est pas toujours une sculpture.
Qu'on nomme parfois une installation dans le langage courant.
Oui, on a tendance un petit peu à tout mélanger. On dit voilà une sculpture, et souvent une sculpture, c'est ce qu'on nomme sculpture n'est pas une sculpture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail avec une matière, c'est autre chose. C'est
avec une maîtrise technique.
Il y a un métier. Il y a un métier. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'il y a un apprentissage, il y a des gestes, il y a une maîtrise, il y a un apprivoisement, et ça se fait justement par un métier qu'on acquiert, c'est évident.
Lydia Arambourg, vous avez rassemblé la 73 sculpteurs. Est-ce que vous discernez dans cet ensemble, ou des familles, ou des courants, ou des générations? Là, c'est la deuxième édition. Est-ce qu'il y a des choses qui se répondent? Là, 2 ans, c'est court pour juger comme ça d'une telle manifestation. Mais est-ce que vous voyez ou vous sentez des familles de sculpteurs?
Oui, bien sûr qu'il y a des familles. Il y a des familles, ne serait-ce qu'à cause des matériaux. Il y a ceux qui taillent.
Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a...
La taille directe, il y a ceux qui travaillent la cire, on est dans le modelage. Et puis, il y a les techniques de fonderie qui viennent se greffer justement sur la terre et sur la cire.
Est-ce que dans toutes ces techniques, il y a une évolution de ces techniques
Non, il n'y a pas d'évolution de technique. Il y a des ajustements peut-être.
Il y a des ajustements.
En fonction de ce que demande et de ce qu'attend le sculpteur de sa sculpture, je dirais. Mais il me semble, enfin Gérard Lanvin peut-être apporter une précision, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas d'évolution. La technique de la fonte à la cire perdue, de la fonte
c'est
au sable, elle existe depuis des millénaires, donc il n'y a pas de changement. Ce sont les mêmes gestes, ce sont les mêmes matériaux. Il y a des familles aussi au niveau stylistique, je dirais, parce qu'il y a les artistes qui ont choisi d'être fidèles à la figure humaine, et puis il y a ceux au contraire qui sont partis dans une direction plus allusive ou tout à fait abstraite, c'est-à-dire avec des volumes, avec des formes géométriques, mais là aussi il y a une quête, c'est pas uniquement des formes qui sont là, mais il y a une quête toujours de poésie. Je pense que chez tous ces sculpteurs il y a une poétique. Et bon, là, bien sûr, le rapprochement est peut-être facile, mais il est, pour moi, c'est pour moi une évidence. Quand vous voyez la sculpture, d'abord, la sculpture, c'est l'espace. Et bien évidemment, on dit la poétique de l'espace, c'est Bachelard, mais pour moi, c'est vraiment la sculpture, c'est ça. C'est l'espace, c'est le matériau, mais de ce matériau, il y a une poétique qui alors viendra à la fois du travail de la matière, mais qui viendra aussi du langage même du sculpteur, que ce soit abstrait ou que ce soit figuratif ou que ce soit expressionniste. Donc on a cette poétique, effectivement, et cet univers éminemment intériorisé, ce dialogue qu'on a avec la matière, de laquelle le sculpteur essaye d'extraire à la fois la lumière et la poésie. Parce que ça, c'est l'autre élément de la sculpture que je n'ai pas abordé, c'est la lumière, je pense. La lumière qui est inhérente au matériau, mais qu'il faut arriver à faire affleurer suivant les formes, suivant aussi la matière. La lumière sur un bronze ne joue pas comme sur un granit, comme sur une terre cuite. Donc là, il y a une intimité. Donc il y a vraiment ce rapport, vous voyez, très intime avec la matière. Et puis après, ben, la pièce, la sculpture vit sa vie et elle transmet, elle est prête à offrir ce qu'elle a de plus intime et de plus précieux, je dirais aussi, de plus... Oui, c'est le sculpteur qui vraiment domine et qui fait affleurer un mystère, le mystère de la matière.
Comment est-ce que vous avez voulu mettre en scène ces 60 et plus de 70 univers de sculpteurs différents ? Qui avez-vous choisi de mettre à l'extérieur, à l'intérieur ? Est-ce que vous en avez regroupé ensemble ou pas ? Qu'est-ce qui vous a guidé ?
Alors déjà,
comment est-ce qu'elles se sont répondues les unes les autres, ces sculptures, en présence ?
Alors déjà, le choix de l'intérieur, de l'extérieur, c'est tout simplement une question de fragilité. Parce qu'il y a des pièces qui sont en terre cuite, qui ne peuvent pas être à l'extérieur. Donc, à l'extérieur vont surtout des bronzes, des grosses sculptures en granit, en pierre. Là, il n'y a pas de problème avec les intempéries, ça peut rester. Mais je dois dire tout de suite que c'est vrai que la sculpture est quand même faite pour l'extérieur. Et que ça, c'est la grande tradition de la sculpture. Bon, on n'a qu'à penser à toute la sculpture antique, bien évidemment, que ce soit les Égyptiens, la Mésopotamie, et puis quand on arrive, les Romains, bien évidemment, les Grecs et les Romains, bien évidemment, toutes ces sculptures qui étaient au fronton et qui étaient sur les péristyles des temples, nos églises, bien évidemment, la sculpture était à l'extérieur, les sculptures étaient même peintes, polychromes. Et puis et le XVIIe siècle est le grand siècle classique de la sculpture où il y a une tradition de, alors là qui perdure la tradition de la sculpture à la Renaissance où les sculptures sont à l'extérieur dans les parcs bien évidemment et là il y a des commandes et considérables qui sont passées à nos grands sculpteurs de classiques au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'au XIXe que la sculpture commence un peu à se rapatrier à l'intérieur. Les salons se développant, les sculptures deviennent plus petites, et puis les sculptures, bon, effectivement, rentrent à l'intérieur. Alors, bien évidemment que moi, naturellement, le choix, il se fait en fonction du choix que je fais des sculptures. Il y a celles qui vont aller à l'intérieur et celles qui seront à l'extérieur. Après, le dialogue qui se passe et qui va s'établir avec la sculpture, j'ai envie de dire, ce sont des dialogues qui se font assez naturellement. Simplement, je m'efforce de ne pas faire cohabiter. Toutes les sculptures ont leur présence, parce que ça me frappe à chaque fois. Il y a des présences très, très fortes, parce que chacune est là, forte de son monde. Elle nous impose vraiment d'abord leur monumentalité, pas toujours en relation avec la taille de la sculpture, mais elles ont des présences, et bien évidemment que deux sculptures très expressionniste, je ne peux pas les faire cohabiter parce qu'il y en a une qui va, je ne peux pas dire manger l'autre, mais il n'y a aucun intérêt à les mettre en face à face. Il n'y a pas de rivalité. La sculpture n'a pas à être en rivalité avec une autre. Donc, j'essaye de faire cet équilibre. C'est un équilibre vraiment qui se fait et que je sens assez bien parce qu'encore une fois, il faut les écouter. Ces sculptures, elles nous parlent, elles sont là fortes d'une présence et elles distillent quelque chose. Je crois que le public y est très sensible. Alors, c'est comme des personnages qui arrivent et qui sont positionnés. On les démaillote parce qu'elles sont enveloppées dans des couvertures, dans du papier bulle, etc. Et puis, je vois les regards et ça m'émeut beaucoup parce que ces personnes, elles découvrent et ça leur parle. Donc, vous voyez, il y a quand même, sans initiation, il y a cette force qui vraiment se dégage à la fois de la matière et aussi de la forme elle-même, que ce soit des formes... Alors bien sûr que quand ce sont des représentations humaines, je pense que ça saisit davantage.
Il n'y a pas de contraintes de salle.
À l'intérieur, il y a des contraintes de salle. Alors, à l'intérieur, c'est une autre histoire parce que je suis très attentive à ce que toutes les sculptures soient visibles. Et quand, on se présente à l'entrée de la salle, je ne voudrais pas qu'une sculpture en cache une autre. Pour moi, ça serait une trahison.
D'ailleurs, vous n'avez pas non plus de sculpture emblématique choisie pour la Biennale. Tout le monde est...
Non, parce que...
Les dizaines de sculptures cohabitent.
Non, elles sont choisies pour elles-mêmes d'abord, parce qu'elles sont là, elles existent, et le sculpteur d'abord est...
Est-ce que ce n'est pas noyer les différentes unités ou identités ?
Je ne pense pas. Il n'y a pas de hiérarchie.
C'est ce qui fait l'œuvre.
Il n'y a pas de hiérarchie. Elles ont toutes leurs valeurs.
Retrouvons Lydia Arambourg au rez-de-chaussée de la Ferme Ornée, un très beau bâtiment restauré de la propriété Caillebotte. À l'entrée, sur le seuil de la première salle d'exposition, elle nous décrit les premières sculptures offertes au regard du visiteur. Lydia Arambourg.
Alors, il y a deux grandes sculptures monumentales d'un sculpteur qui est jeune, un sculpteur de la nouvelle génération, Nicolas Alquin. Ces deux personnages, Persée et Andromède, enchaînent, donc c'est de la taille directe, c'est un chêne qui est travaillé ensuite à la chaux, un chêne chaulé. Donc il y a des stries blanches qui donnent un modelé à cette sculpture qui est assez rustre, on va dire, qui semble à peine dégrossie. Alors les deux personnages se font face à face, ils sont dans un dialogue. Et il se détache donc sur le fond qui est absolument blanc, tout est blanc. Dans l'alignement, il y a un personnage en plâtre de Gérard Lanvin, qui est un personnage énigmatique, un peu mystérieux, et qui est à la fois positionné sur une colonne, mais il franchit, il est dans l'espace, il est dans une sorte d'apesanteur, et c'est vraiment un bond dans l'espace. Entre les deux, il y a sur deux piédestaux, il y a deux bronzes beaucoup plus intimes, mais qui portent leur monumentalité de Pierre-Édouard.
Alors, ce sont des pièces beaucoup plus petites, mais qu'on voit très bien.
Petites, mais qui se détachent et qui prennent aussi leur place avec cette dimension, cette densité. Alors bien sûr, on va se rapprocher, on les détaillera, et ce sont des fragments de corps, et là aussi il y a cette recherche, cette quête d'un dessin dans l'espace qui se prend dans le volume. Et bon, là l'éclairage n'est pas fait, mais il y a une tête, c'est une tête d'Ève, et puis l'autre tête différente dans un autre positionnement qui se dégage d'une amorce d'épaule. Donc là aussi, il y a toute une histoire du corps humain.
Et puis au centre ?
Alors au centre, il y a au sol, dans un présenté presque au ras du sol, mais positionné sur une sorte de praticable que j'ai réutilisé, qui avait été fait pour une précédente exposition et que j'ai trouvé tout à fait adapté à une sculpture de Claude Marie, qui est un plâtre original, un plâtre unique, et qui est un haut-relief. C'est un petit enfant qui est couché sur le sol. Alors là aussi, il y a beaucoup de mystère, et c'est toute l'histoire de l'humanité, là aussi. Au fond, il y a dans cette pièce des personnages qui sont liés à la figure humaine, parce qu'on a également un bronze de Robert Rigaud. Plus loin, il y a deux personnages en carton de Lisbeth de Lille. Alors là, c'est du carton travaillé, un peu comme un tissu qui est plissé, vous voyez, c'est un peu comme du tissu qu'on aurait travaillé sur un mannequin. Deux personnages qui commencent une danse. Il y a un grand personnage, alors ça, ce sont les grandes figures tutélaires, les guerriers, les génies protecteurs, parce que pour moi, c'est vraiment un génie protecteur de Brigitte Terzieff. Très belle sculpture. Et devant, alors une rupture, c'est une sculpture en inox de Yves Millecamp. Et là, nous sommes alors dans un univers complètement différent, d'où le quand je parle de langage, c'est vraiment le langage. Là, c'est un travail des volumes, donc des plaques d'inox qui sont juxtaposées, qui sont dépliées un peu comme un carton, si vous voulez, dont on aurait plié les côtés pour le remonter, le replier, faire une sorte de forme un peu cassée. Et là, c'est donc un autre appel. Alors, Chassepot, tout à fait à l'opposé. Chassepot, c'est un univers tout à fait ludique. C'est du papier mâché. Chassepot est célèbre. C'est très... Enfin, célèbre. On le connaît bien pour ses personnages très humoristiques, qui sont ces personnages engoncés dans des costumes, dans un complet. Ils ont des chaussures vernies. Tout ça est peint. Et il a ses besicles et il est en train de lire son journal. Et alors, tout de suite à l'entrée, nous avons un superbe bronze, un grand panneau, un relief de Raymond Masson qui représente la place de l'Opéra avec au premier plan le métro, donc des personnages qui montent et qui descendent. Tout ça est,
alors ça se voit pas du premier coup d'œil, parce que du premier coup d'œil c'est la sortie alors, métro
c'est,
quand
c'est,
même.
C'est vrai que c'est un relief, on va dire, dans la tradition des reliefs de la Renaissance et puis du grand classicisme. Et Raymond Masson est un chroniqueur. Il observe beaucoup ses contemporains. Et donc, il représente toujours des scènes qu'il observe dans la rue, ou alors ce sont des événements beaucoup plus dramatiques dont il nous donne la narration et le témoignage. Donc, c'est un chroniqueur, un observateur de ses contemporains, vraiment.
Mais avec une pointe d'humour.
Alors, dans cette même salle, qui est pleine, alors je l'aurais toute décrite, il y a encore un grand bronze de Busato, qui est un messager. Là aussi, un personnage, vous voyez, qui est en train de courir, donc il est dans son mouvement, et qui répond
au grand samouraï de Gérard Lanvin.
Et là, vous voyez, on a deux matériaux différents. Gérard Lanvin, le plâtre. Et puis Busato, bon, c'est la cire qui est ensuite fondue et qui permet d'avoir ce très beau bronze avec une très belle patine qui a été fondue à la Fondation Coubertin. Et là, nous avons, vous voyez, un dialogue qui s'établit. Et j'aime bien quand il y a ces correspondances qui n'apparaissent pas toujours immédiatement, que je n'ai pas cherchées, mais qui viennent à un moment donné. Je me dis, ah, là, c'est pas mal, parce que finalement... Il y a une correspondance et il y a toujours ça. L'enfant de Bogota, c'est un moment qui n'est pas d'ailleurs dramatique. Enfin, c'est dramatique, mais on oublie que c'est un drame. Des enfants qui sont dans ces pays du tiers-monde extrêmement pauvres, où il y a cette misère enfantine. Et cet enfant devient un personnage très calme, très apaisé. Et finalement, il y a la sculpture qui va, à un moment donné, transcender ce personnage, qui va l'incarner complètement et lui donner sa dignité. Vous voyez, la sculpture acquiert quelque chose un rayonnement. Voilà, il y a un rayonnement. Et je crois qu'ici, finalement, c'est le rayonnement, c'est le bonheur qu'ont ces sculptures à être ici, à être ensemble, à dialoguer. Je pense souvent à ça, d'ailleurs, quand je quitte un musée. Je me dis, voilà, tout le monde va sortir, il n'y a plus personne, les lumières s'éteignent. Bon, mais il y a d'autres, je sais qu'on a travaillé sur ce thème. Et les œuvres vont avoir leur propre histoire et elles vont dialoguer. Mais là, ici, avec la sculpture, elle dialogue déjà et elle nous invite à dialoguer avec elle. Mais c'est à nous d'aller vers elle aussi. Ah, j'ai oublié une sculpture, c'est celle de Friquet, qui est entre Chassepot et Alquin, qui est un marbre. Alors là, nous sommes aussi dans la tradition de la taille directe. C'est un gros bloc de marbre qui a été dégrossi et qui prend une forme d'architecture, une architecture utopique. Mais vous voyez, là aussi, il y a des relations de matière. Bon, le chêne cholet, qui est assez sombre, et avec ses éclairages, ses stries blanches, encore une fois, qui, qui absorbe toute la lumière et qui la renvoie. Et ce blanc se retrouve dans ce marbre blanc un peu veiné. Le personnage de Chatepot, qui est aussi dans une peinture, je dirais, un peu monochrome. Alors, il y a ce costume qui est plutôt clair, blanc cassé. Alors, il y a le contraste avec les souliers vernis noirs, la cravate noire. Enfin, il y a toute une circulation.
L'intérêt de la Biennale, c'est de réunir d'abord.
Alors, je crois qu'on est dans la sculpture. C'est vraiment la sculpture. Et c'est ce que me disent les sculpteurs qui sont présents ici. Pour eux, je crois que c'est une... Moi, c'est mon devoir en tant qu'historienne de l'art de pouvoir réussir et de pouvoir faire une exposition comme celle-ci. Bon, c'est vrai que ça se fait parce que la ville est complètement acquise à cette grande aventure que M. Dupont-Aignan, le député maire de la ville d'hier, bon, m'accorde sa confiance et permet que cette biennale se réalise dans ce lieu dont il a compris que très vite que ce lieu était évidemment fait pour accueillir de la sculpture. Mais évidemment, la sculpture est présente. Les sculpteurs me disent... Plus personne n'ose faire une exposition de sculpture. D'abord parce que on ne sait plus très bien, encore une fois, ce qu'est la sculpture. Elle fait peut-être, elle fait pas peur, mais c'est compliqué. C'est quand même une grosse aventure, mais qui est tellement excitante, exaltante. Et les sculpteurs se retrouvent ici. Ils sont heureux d'abord de se retrouver entre eux, ensemble, et de se dire voilà, on est là, on existe, et notre sculpture est montrée. Quand je dis notre sculpture, pas une sculpture, je veux dire leur œuvre, leur œuvre sculptée est montrée. Et c'est une aventure qui est bouleversante, enfin, c'est magnifique.
Est-ce que des parties de cette biennale seront exposées ailleurs? Est-ce que ça fait partie des projets? Est-ce que
alors,
c'est possible?
Il y a des projets, c'est pas simple,
embryonnaire pour l'instant.
Oui, mais il y aura obligatoirement. Là, c'est la deuxième édition.
C'est la deuxième édition. Il y aura obligatoirement des suites d'œuvres exposées.
Parce que ça se sait. Vous me demandiez au début de cet entretien. Bien évidemment, ça va très vite. Le monde de l'art, le monde de la sculpture, qui est un peu petit monde, c'est un petit univers, mais tout de même, tout circule très vite. Et puis, il y a un très beau catalogue qui est édité par Somogyi. Donc, ça fait le deuxième catalogue. Et mon souhait, ce serait qu'il y ait justement donc, cette biennale qui se répète et dans le temps que ça puisse constituer une sorte de mémoire de la sculpture du 20e siècle, du 21e siècle.
Maintenant, nous sommes au
21e. Et que ces catalogues livres, parce que c'est presque un livre, en reprenant à chaque fois donc ces sculpteurs et puis de nouveaux qui arrivent comme cette année, eh bien que ça constitue vraiment une collection, une sorte d'encyclopédie de la sculpture, parce que je crois que malheureusement au niveau éditorial, quand vous consultez, je le dis très franchement et très très vigoureusement, quand vous consultez des livres sur la sculpture et notamment des dictionnaires de la sculpture moderne et contemporaine, eh bien, on s'aperçoit que les trois quarts des sculpteurs qui sont présents ici ne figurent pas dans ces dictionnaires, que ce sont quand même des sculpteurs, et pas des moindres, qui ont un nom et qui sont vraiment installés dans cette histoire de la sculpture et qui ont une vraie histoire de sculpteur, c'est-à-dire que ils ont participé à des salons, pour ceux qui en sont de la génération justement de Lanvin, de Poncet, d'Abeille, de Cardot.
Ceux que vous avez sélectionnés autour de la quarantaine, ils sont déjà reconnus.
Alors, ils ont des expositions, c'est vrai tout de même, il y a des expositions dans des musées, il y a des expositions à l'étranger aussi, c'est quand même compliqué, mais il y a quand même des expositions, parce qu'il ne faudrait pas que l'on pense qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas dit ça. Mais disons que des salons de sculpture, il n'y en a plus. Il y avait ce grand salon de la jeune sculpture qui avait été créé par Denis Chevalier en 1949 et qui a duré pendant 25 ans jusqu'en 1978. Et c'était le salon, le grand rendez-vous de la sculpture. Il faut savoir qu'il y a eu jusqu'à 1200 sculpteurs sur ces 25 ans à peu près qui ont exposé. Alors, c'est toute l'histoire de la sculpture qui était là et tous les matériaux. Et c'était vraiment en même temps un salon pionnier dans la mesure où il y avait justement ces sculpteurs qui travaillaient de nouvelles matières qui arrivaient, notamment les résines. Les résines, on en a aussi ici. Les résines, les polyesters qui étaient travaillés par des sculpteurs qui trouvaient là un matériau qui s'adaptait vraiment à ce qu'ils cherchaient sur le plan de la forme et sur le plan de l'expression de leur propre langage. Donc, Il y a bien évidemment toujours des sculpteurs qui peuvent exposer, qui exposent, mais ça devient plus rare. Donc cette biennale, c'est l'événement parce que effectivement les sculpteurs se retrouvent. Alors bien sûr avec des moyens qui sont déjà énormes, mais qui ne permettent pas d'inviter 100, 150 sculpteurs. Mais là cette année, bon, j'ai été audacieuse, j'ai pu aller jusqu'à 73. Alors c'est complètement arbitraire, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a pas du tout de, il y a rien de caché sous ce chiffre. Voilà, à un moment donné, on s'arrête, c'est comme ça. Pour revenir au catalogue, j'espère qu'effectivement, on va constituer une vraie collection de livres sur la sculpture, parce que ces dictionnaires auxquels je faisais allusion mélangent un peu tout et font cohabiter des sculpteurs avec des vidéistes, je ne sais pas comment on les appelle, des vidéistes, et puis des installations.
Et ça n'est pas la sculpture, c'est autre chose.
C'est une autre histoire.
Alors, pour découvrir cette histoire, leurs univers, eh bien, on invite le public à venir ailleurs, à la propriété Caillebotte, à rencontrer 73 œuvres de sculpteurs vivant en France, qui sont là sans hiérarchie aucune, mais dont les œuvres s'imposent dans le paysage de la propriété et à l'intérieur aussi, pour les plus fragiles. Mais encore que dire que ces sculptures sont fragiles, c'est difficile.
Non, mais parce qu'elles ne supportent pas l'extérieur, tout simplement les intempéries, par exemple. C'est vrai, il y a des risques.
Une belle force.
Et puis aussi, par leur taille, parce que certaines, il y a des questions de sécurité, voilà, tout simplement.
Merci Lydia Rambourg.
Merci à vous.
Après le rez-de-chaussée, montons à l'étage voir d'autres sculptures, en compagnie du sculpteur Antoine Poncet, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui évoque pour nous une de ses sculptures, un bronze au titre énigmatique « Jamais à jamais ». Antoine Poncet, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme vos confrères de l'Académie des Beaux-Arts, vous présentez donc ailleurs une de vos sculptures, aux formes souples, voluptueuses. Un bronze de 1987 qu'on a envie de toucher, qui est très lisse, le poli du bronze est très très beau et très vibrant. Et quand on regarde vos sculptures, eh bien on a l'impression qu'elles respirent. Et je voulais vous demander, je sais que vous avez connu Jean Harpe, qui parlait de vos rêves de pierre. La formule lui appartient. Alors, quel rêve se cache derrière cette sculpture qui s'appelle « Jamais à jamais » et qui appelle au toucher, mais qui évoque l'envol, une forme ailée, quelque chose d'insaisissable et qui échappe. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ce rêve?
Vous savez, il se cache toujours la même recherche que les sculpteurs et chacun de sa façon personnelle essaye de cristalliser dans la matière avec une sculpture. Moi, j'aime mettre un titre qui permet au spectateur de laisser divaguer, si j'ose dire, son imagination. Et jamais à jamais, on peut presque dire qu'il y a une possibilité d'imaginer qu'on ne va jamais à jamais, qu'il y a toujours et toujours, voyez-vous, il y a des choses qui se relancent, comme la sculpture elle-même qui peut tourner sur elle-même et évoluer dans l'espace, puisque la forme que l'on crée doit vraiment se situer dans l'espace quand c'est une sculpture. C'est pas un petit bas-relief, c'est une forme entière comme un être humain, et donc elle doit vivre par elle-même. Elle doit donc, si vous voulez, elle peut se sentir vivante si elle est bien équilibrée. Donc, dans ce cas-là, je crois que c'est une sculpture un peu ailée, un peu gyroscope, qui tourne et qui peut évoquer à celui qui la regarde des souvenirs de rêves, d'imagination, de s'élever dans le ciel, puisque j'aime bien que ma sculpture donne l'impression qu'elle va vers le haut. Plutôt une élévation des formes qui est très contraire à Harpe, qui était plutôt le bourgeon qui commence à sortir de la terre, on pourrait dire, comme le bourgeon d'une plante. D'ailleurs, Harpe disait toujours « il faut qu'une œuvre soit comme une plante ». Et moi, je pense que c'est une plante, dans mon cas, qui se détache à un moment du sol et pourrait s'envoler. C'est pour ça que cette forme-là donne un peu ce sentiment de vous savez, ces papillons, ces petites graines d'arbres
qui tournent
qui retournent sur elles-mêmes et qui ne monte pas, mais descende, mais en descendant, donne l'impression de monter, si j'ose dire.
Oui, oui.
C'est là où je pense que le rêve et la poésie peuvent se greffer dans le regard de celui qui approche une de mes sculptures. Mais c'est difficile à dire, vous savez.
Elles sont faites pour être vues et vraiment pour tourner autour et les prendre la mesure justement de l'espace dans lequel elles sont.
Oui, absolument. Et puis je crois que ça permet une sculpture et une œuvre d'art en général de se poser à soi-même une interrogation. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette chose qui a sa propre vie tout à coup et qui a été pourtant l'enfant de quelqu'un au travers de son contact avec les formes, avec sa main, avec la matière. Mais c'est un dialogue qui est magnifique. C'est comme le dialogue qu'on peut entretenir quand on écoute une musique, c'est la même chose, naturellement. Ou quand on lit un texte poétique. Je ne peux pas vous parler d'une exposition que j'ai à Coubertin là, mais qui est justement reliée à la poésie au travers des poèmes de Philippe Jacotet, qui était un de mes amis. Et je crois que tout ce qui est œuvre d'art, donc art plastique, écriture, musique, c'est un rapport avec ce mystère un peu que la poésie nous permet d'approcher.
Alors, cette forme ailée, on la retrouve dans plusieurs de vos sculptures, et avec cette façon d'être en point d'appui sur une base très élégante, très fine. On retrouve ça dans d'autres de vos sculptures.
Oui, c'est vrai.
Vous avez choisi celle-là en particulier pour une raison
Non, vous savez, si j'ai ce besoin d'avoir un équilibre qui permet à la sculpture de se mouvoir autour de son axe, c'est que je crois que si les poids sont bien équilibrés, il y a déjà une réussite par rapport à l'ensemble de la forme en elle-même. Les poids de la matière doivent aussi tenir sur leurs pieds, si je peux dire, et en plus, quand c'est très fin, sur un axe assez fin.
On a l'impression d'une impulsion, là.
Voilà, ce qui permet à l'impulsion aussi de s'imaginer quand on regarde la sculpture. Elle n'est pas accrochée au sol, elle est prête à s'envoler, si on peut employer ce mot-là. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec une image de figurative, si on peut dire, de l'envol. Si on en voit quelques traces, c'est plutôt pour que ces traces vous permettent de laisser évoluer votre imagination poétique.
Cette sculpture a un peu plus de 20 ans. Et pourquoi avez-vous choisi de présenter cette pièce ailleurs et pas une autre? Quelle place a-t-elle dans votre
œuvre? Il n'y avait pas réellement de choix pour hier. Hein. C'était cette collaboration avec 70 autres camarades sculpteurs. C'est merveilleux. Donc, on arrive avec son travail sans avoir l'idée d'imposer quelque chose.
Bien sûr.
C'est plutôt une petite pierre qui était celle-ci et qui n'était pas une autre. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Peut-être parce qu'elle était disponible et que je pensais qu'elle allait bien dans ce
dans
cadre.
Ce cadre. C'était par curiosité. Oui. C'était une pièce que vous aviez déjà exposée ou pas?
Je l'ai exposée déjà une fois. Mais vous savez, les sculptures faites autrefois vivent oui. aussi aujourd'hui et doivent vivre après. Donc, elles peuvent se situer dans le cadre de beaucoup d'expositions, de lieux publics.
Mais à quoi correspond, pour vous, le langage spécifique du bronze?
Ah ben écoutez, il y a le feu, il y a le fait que c'est une matière qui tout à coup pénètre dans le volume du moule, du modèle, et avec sa flamme, avec sa chaleur, elle redonne ceci ensuite quand on regarde la sculpture. La sculpture en bronze, c'est vraiment la belle approche de cette chose merveilleuse qui est la fusion. Et la fusion, elle est aussi vers le spectateur. Le marbre lui-même, c'est autre chose. Le marbre, c'est un morceau de la terre qui est pris en main, qui existe aussi par la fusion, mais dans le temps. C'est pas une fusion qui est faite pour l'œuvre même, elle-même. Tandis que dans le bronze, on choisit de faire en bronze un modèle en plâtre qu'on prépare pour le bronze. Donc il y a vraiment le lien très court, très proche entre l'artiste, son projet qui passe dans le bronze. Et ça, c'est merveilleux. C'est l'artisan un peu, comment dire, formidable, qui tout à coup travaille avec vous aussi, qui est le fondeur. Et cette approche est tellement importante pour le sculpteur.
On reconnaît aussi vos sculptures au ciselage, quelque chose de très, très doux. On a vraiment envie de la toucher. Et avec le bronze, justement, Là, il n'y a pas une relation
particulière. Alors, c'est-à-dire que dans le travail lui-même de la technique, si vous voulez, d'une sculpture en bronze, quand la pièce sort de la fusion, elle est complètement brute. C'est-à-dire que tout est préservé, mais il faut retirer ce qui déborde, c'est-à-dire ce qu'on appelle les jets par lesquels on a fait couler le bronze. Et il faut reprendre les arêtes qui se sont parfois un peu trop fourni de bronze. Donc c'est ce qu'on appelle le ciselage de la sculpture, jusqu'à ensuite, au moment où on patine cette sculpture, quand elle est amenée au mieux de sa forme. C'est aussi, vous savez, toute cette série d'étapes dans la sculpture, depuis le modelage où on se laisse aller instinctivement comme dans un croquis, jusqu'à la finition, l'œuvre devient solide et durable. C'est très passionnant, c'est le travail du sculpteur.
Vous trouvez qu'elle vieillit bien alors, cette sculpture, jamais à jamais ?
Oh, je pense, oui. J'espère qu'elle ne vieillira que dans le bon sens, oui, comme chacun de nous. Enfin, il faudrait dire aussi à quel point cette initiative de hier est importante, que les sculpteurs sont rarement aussi bien vus que dans ce lieu. Et le soutien de la ville de hier est magnifique pour les initiatives de Lydia Arambourg, qui, avec son enthousiasme, a réuni cette exposition.
Quel regard justement vous portez sur cette réunion et cette offre ? Faite au public.
Depuis plusieurs années, assez rare qu'il y ait des choses aussi importantes. On a naturellement, par exemple, le musée du Quai Saint-Bernard, où il y a des œuvres, mais les grands salons d'autrefois, il y avait le salon de la jeune sculpture, où on voyait beaucoup d'œuvres, au musée Rodin aussi, on voyait des œuvres contemporaines. Et ça, actuellement, ça manque à Paris, parce que les sculptures dans les grands salons de Paris sont un peu traitées comme des potiches, un peu comme des plantes vertes qu'on place dans le coin des
grandes foires d'art contemporain.
Et puis aussi l'art contemporain s'est un peu éloigné de ce qu'on peut dire les racines de la sculpture et du contact réel avec la matière, avec cet équilibre des formes, des volumes. N'importe quelle chose qui est dans l'espace est considérée comme une sculpture, ce qui permet naturellement, malheureusement, on pourrait dire, de déformer la vraie qualité qu'une sculpture doit exprimer dans l'équilibre de ses formes et de ses matières.
Qu'est-ce qui vous a surpris hier dans cette réunion ?
Parmi les sculpteurs qui sont là, ben je crois que le choix qui a été fait quand même par Lydia Arambourg est justement très cohérent, parce que ce sont des expressions personnelles de ces 71 sculpteurs qui ne se ressemblent pas, mais qui montrent bien le panorama, je crois, de la recherche sculpturale de notre époque. Et pas seulement à Paris, en général.
Alors, je rappelle, Antoine Poncet, qu'en ce moment, vous avez une actualité à la Fondation Coubertin, du 12 septembre au 18 novembre, qui s'intitule « Résonance poétique avec Jean Harpe et Philippe Jacotet », que vous, justement, vous évoquiez. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview sur la Biennale de sculpture de hier. Merci Antoine Poncet pour vos sculptures dont peut-être on peut dire que la beauté peut nous désencombrer la vue, comme le disait Jacotet de Jolie Violette dans un de ses poèmes.
Merci à vous, parce que ce qui compte, c'est que notre travail soit regardé par des personnes comme vous et que ça leur permette peut-être d'avoir un peu plus de joie et de bonheur dans la vie, dans leur vie. Merci.
Merci.